ouvrons un chapitre 9, le Kyrgios Eleison, comme vestige litanique. L'état exact de l'avant-messe romaine au IIe siècle est connu de la science liturgique actuelle. Grâce à deux courts extraits de la première apologie pour les chrétiens, écrite par un martyr, Saint Justin, mort en 165. Le rituel débutait par trois lectures, texte de l'Ancien Testament, péricope du Nouveau Testament et l'Évangile, suivi des commentaires et de l'enseignement du célébrant. Ensuite, précise Saint Justin, nous nous levons tous ensemble et nous faisons des prières. À la fin de celle-ci, les fidèles échangent le baiser de paix et les oblats sont apportés à l'autel. Les auteurs ont décrypté très aisément le terme de prière. C'était la très célèbre Oratio Fidelium que la réforme liturgique de 1969 a tenté, fort maladroitement d'ailleurs, de restaurer sous le vocable de prière universelle. Or, cette Oratio Fidelium primordial contient en germe les développements qui conduiront d'une part à l'apparition du Kyrie eleison en tant qu'institution liturgique dans la messe actuelle, d'autre part à l'élaboration définitive du canon romain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Depuis la plus haute antiquité chrétienne, la prière des fidèles, immuablement placée avant l'offrande du pain et du vin, conserve partout un visage fondamental identique. Elle compte une série d'intentions orantes fixées par le magistère. On y prie pour l'Église, le pape, les évêques, les autres clercs ordonnés, pour l'empereur, les catéchumènes, les malades, les voyageurs, les prisonniers, les hérétiques, les schismatiques, les juifs et les païens. Par contre, les formes institutionnelles sont différentes, mais elles obéissent sur un plan général à deux lignes directrices. L'Orient fait de l'Oratio Fidelium une litanie, dont les versets sont psalmodiés par un diacre. À la fin de ceci, les fidèles répondent « Kyrie eleison » et l'oraison conclusive du célébrant, appelée parfois « collecta », rassemble les vœux ainsi exprimés par les fidèles. Cette forme litanique a été adoptée à Milan et dans les Gaules, passés à la foi chrétienne grâce à l'apostolat d'évangélisateurs orientaux. Elle traversera les mers, et on la retrouvera même en Irlande. La forme opposée est romaine, connue seulement au terme de son élaboration au Ve siècle. Ce sont les orationes solemnes, orations solennelles, maintenues encore aujourd'hui le Vendredi Saint lors de la fonction liturgique de l'après-midi. Elle comporte 9 oraisons aux intentions diverses imposées par l'Église. Chacune de ces oraisons est précédée d'un invitatoire du prêtre précisant l'intention de prière. Entre l'invitatoire et l'oratio, le diacre intervient pour demander à tous de s'agenouiller. Flectamus genua, afin de laisser à chacun un court instant de prière individuelle. Le sous-diacre prescrit ensuite de se relever, levate, pour entendre l'oraison qui se conclut sur l'amen de tous. Ici, point de trace du Kyrie eleison que pourtant Rome connaît et pratique par ailleurs. Autre observation, la fonction diaconale est réduite et la prééminence du sacerdoce au contraire accentuée. Rome a donc pris quelques distances avec la coutume orientale sous l'effet d'une évolution qui accorde un primat croissant aux prêtres. Les auteurs ont en général parfaitement analysé l'état définitif de l'institution romaine au Ve siècle et même décelé son cheminement liturgique antérieur. Il apparaît clairement qu'à la fin du IVe siècle, un remaniement liturgique a engendré les oraisons qui se sont ensuite surajoutées à des invitatoires de date bien plus anciennes, IIIe siècle à notre avis. La régression de la fonction diaconale a été parallèle, et son importance passée rejoignait celle de l'Orient chrétien. Un auteur, Don Capel, observe que la dernière allusion faite aux Arationes Solemnes date du règne du pape Félix III, son règne pontifical de 483 à 492. Le pape Gélas Ier, le grand réformateur de la liturgie, lui succède, son règne pontifical, de 492 à 496, 4 ans. Apparaît au cours de son règne une institution litanique placée au début de la messe, avant les lectures, comportant 18 versets, avec pour réponse des fidèles « Kyrie eleison » ou équivalemment « Domine exaudi et miserere » selon les cas des manuscrits. Une collecte conclue l'ensemble. C'est ce qu'on appelle l'institution de la Deprecatio Gelasii. Le bilinguisme gréco-latin réapparaît donc dans la liturgie romaine. Mais il semble bien qu'une préférence ait alors été accordée à l'incis supplicatoire grec au sein des populations chrétiennes. La règle de saint Benoît évoque encore la supplicatio litaniae id est Kyrie eleison, c'est-à-dire Kyrie eleison. Et le deuxième concile de Vaison la Romaine en 529, sous la présidence de saint Césaire, l'évêque d'Arles, prescrit d'introduire dans toute la liturgie l'usage si saint de ce réponse grecque. La pratique de la Deprecatio Gelasii a seulement pénétré les provinces romaines orientales et italiennes. Elle ne semble pas avoir obtenu le succès escompté auprès des fidèles, ce qui transparaît dans les célèbres précisions apportées par Grégoire le Grand à l'évêque Jean de Syracuse, étonné des incursions grecques dans la liturgie romaine. Premièrement, à Rome, dit saint Grégoire, le Kyrie eleison est alterné entre le clergé et le peuple, alors qu'il est chanté par tout le monde chez les Grecs. Deuxièmement, l'invocation Christe eleison est aussi usitée, ce que les Grecs ne font pas. Troisièmement, aux messes fériales, c'est-à-dire aux messes de semaine, nous ne chantons pas les autres choses, alia dit en latin, Grégoire, c'est-à-dire les versets de la déprécation. Les autres choses qu'on chante habituellement, mais seulement Kyrie et Christe, afin de nous absorber un peu plus longtemps dans ces cris de supplication. L'invocation Christe eleison est certainement un apport du pape Grégoire, mais il est clair que la déprécatio de Gélase a glissé vers la désuétude. N'en subsiste qu'une kyrielle. Par contre, le schéma actuel de l'avant-messe est désormais fixé. Introïte, kyriale, collecte, lecture. La religion romane n'a plus qu'à lui ajouter sa solennité.